Okapi Service, une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, qui sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations. Okapi.
Comment assister les communautés autochtones? Nous l'avons annoncé en sommaire. On a avec nous dans ce studio Patrick Kipalou, qui est coordonnateur national de Forest Purpose Programme. Patrick, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et est-ce qu'on peut d'abord comprendre c'est quoi National Forest, plutôt c'est quoi Forest Purpose Programme?
Merci beaucoup pour la question. Forest Purpose Programme est une organisation non gouvernementale de droit britannique qui a pour mission de pouvoir assister, travailler avec les communautés forestières, les communautés locales et autochtones, pour les assister dans la promotion et la protection de leurs droits coutumiers sur leurs terres traditionnelles.
Et vous êtes déjà, ça fait combien de temps en RDC?
Alors, nous avons travaillé en République démocratique du Congo depuis plusieurs années, environ un peu plus de 10 ans, mais beaucoup plus dans les régions, les provinces à l'est du pays. Et c'est depuis 2011 que nous travaillons, nous avons lancé un grand programme dans le cadre du mécanisme de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation de forêts, le mécanisme RED. Nous avons lancé un grand programme d'information et d'accompagnement juridique des communautés dans les zones des projets pilote RED pour les assister à bien influencer ces projets, et nous travaillons dans 6 provinces maintenant depuis septembre 2011.
Alors, vous assistez donc les communautés autochtones, vous l'avez dit, les populations forestières, mais s'il faut parler de ces communautés autochtones, pour le cas de la RDC, qui sont ces communautés autochtones?
Merci pour cette bonne question. Les communautés autochtones, je vais rappeler tout de suite là que au mois de mars dernier, ici, du 27 mars au 29 mars, nous avons organisé avec les pilotes, sous le pilotage de la dynamique de groupe des peuples autochtones, la DGPA, avec beaucoup d'autres partenaires nationaux et internationaux, un grand festival pour la promotion de droits des peuples autochtones pygmées de la République démocratique du Congo. Alors, qui sont ces communautés autochtones? Ça, ce sont des communautés qui vivent dans les forêts et que nous pouvons définir par rapport à certaines caractéristiques particulières à ces communautés, parmi lesquelles il y a cet attachement en vraiment particulier à leur terre traditionnelle, à leur forêt, par leur style de vie différent du style de vie de toutes les autres communautés de la République, communément le Bantou, mais aussi nous pouvons distinguer ces communautés aussi par rapport à la marginalisation dont elles sont victimes par leur façon de vivre, par leur culture, par leur style de vie de tous les jours.
Et vous avez dit vous essayez de promouvoir les droits de ces communautés autochtones, mais quels sont ces droits de ces communautés, mais qui ne sont pas souvent respectés?
Voilà, j'ai une très bonne question. Je dirais que ces communautés autochtones pygmées en République démocratique du Congo sont des citoyens, comme tout Congolais, et elles doivent avoir droit à tout le droit. Le droit à l'éducation, droit à la santé, droit à la justice, droit au travail, et suite à leur style de vie, à leur façon de vivre, à leur milieu reculé de vie, là où ils sont, ces communautés font face à beaucoup de problèmes de discrimination qui résultent à leur marginalisation politique, économique et même culturelle dans notre pays. C'est dans ce travail-là que nous voulons les aider pour participer, pour les pousser, pour les aider à atteindre l'émergence, à améliorer leurs conditions de vie, parce que ce sont des communautés qui vivent dans une pauvreté que l'on ne peut pas expliquer. Il suffit de sillonner les différentes provinces de notre pays où vivent les communautés autochtones pygmées pour se rendre compte de leurs conditions de vie.
Et les grands problèmes, c'est surtout par rapport à lorsque la exploitation de leur espace de vie, l'exploitation par exemple de forêts pour toutes ces entreprises qui sont dans l'exploitation du bois, c'est souvent la plainte qui revient par rapport à ces communautés, c'est-à-dire que on s'occupe pas d'eux, c'est-à-dire que on sait rien de faire pour ces communautés. Par rapport à cet aspect, vous faites quoi exactement?
Voilà, j'ai parlé tout à l'heure de ces grands programmes que nous avons lancés pour informer les communautés autochtones dans les cadres du mécanisme RED en République démocratique du Congo. Ça, c'est un mécanisme qui a été mis en place par le système des Nations Unies pour la lutte contre le changement climatique. C'est un programme qui vise à encourager les pays qui ont des grandes étendues de forêts à pouvoir garder leurs forêts debout pour lutter contre les changements climatiques, parce que beaucoup de recherches ont prouvé aujourd'hui que la déforestation contribue aussi à lancer dans l'atmosphère des gaz à effet de serre qui accentuent le changement climatique. Donc la bonne gestion, la gestion durable des forêts est un élément clé dans la lutte contre les changements climatiques. Et la République démocratique du Congo, vous savez, nous avons dans ces pays la deuxième plus grande forêt tropicale au monde. Donc nous devons jouer un rôle très très important dans ces combats quand il s'agit de la gestion durable des forêts. Et voilà, dans ces programmes RED, ce sont les forêts qui sont visées. Et nous, vous allez être d'accord avec moi que beaucoup de recherches prouvent aujourd'hui que la majorité, la grande partie des forêts tropicales qui restent encore debout à travers le monde entier, ce sont des forêts qui sont localisées dans les zones où se trouvent les communautés autochtones. Ça veut dire que ces communautés ont une certaine manière de vivre, une certaine façon de gérer les forêts qui font en sorte que les forêts sont durables et majorées dans leur milieu. Donc nous pensons que comme les projets, les programmes, les initiatives RED visent la forêt, ces initiatives vont avoir un impact sur la qualité de vie ou les styles de vie, les modes de vie de ces communautés locales autochtones. Et nous pensons, nous croyons que ces communautés doivent être mises à profit, leurs connaissances, leurs pratiques dans la gestion durable des écosystèmes forestiers, mais aussi surtout leurs droits coutumiers doivent être respectés dans la mise en œuvre des initiatives RED. Nous pensons qu'elles doivent être consultées, que leurs opinions doivent être prises en compte et que ces communautés doivent être capables de pouvoir influencer la conception, la mise en œuvre et même le suivi des initiatives RED à travers notre pays. C'est dans ce cadre-là que nous essayons de les apporter des informations nécessaires sur qu'est-ce qu'est la RED, quels sont les bénéfices que ces communautés peuvent attendre du processus RED, mais aussi quels sont les risques qui viennent pour eux avec les initiatives RED. Comme ça, avec toutes ces informations, ces communautés peuvent se préparer, peuvent avoir les capacités nécessaires pour être capables à influencer la conception des programmes RED, la mise en œuvre des initiatives RED sur le terrain, afin que ces programmes puissent les bénéficier, les aider à améliorer leurs conditions de vie.
Et par rapport à votre combat pour encadrer ces communautés autochtones, qu'est-ce que vous avez déjà réussi à réaliser quelque chose d'éclat?
Exactement. Merci beaucoup. Nous avons mené beaucoup de campagnes de sensibilisation à travers 6 provinces. Nous parlons là de la province du Bandundu, du Bas-Congo. Nous sommes aussi en province orientale et en Équateur, au nord Kivu et au sud Kivu. Dans toutes ces 6 provinces, nous travaillons avec 305 communautés, 305 villages, parmi lesquels il y a des villages de communautés autochtones, mais aussi des villages des communautés bantoues. Nous avons organisé des séances de sensibilisation sur la RED, sur les changements climatiques, sur la gouvernance forestière. Nous avons organisé beaucoup de formations sur les questions de droits humains pour les aider et assister ces communautés à pouvoir comprendre quels sont les droits qu'elles ont, ces communautés, et qu'elles sont, et elles peuvent être, après ces formations, elles peuvent être capables à pouvoir identifier par elles-mêmes les cas de violation de droits humains dans la mise en œuvre des initiatives RED. Et comme ça, elles peuvent être capables de savoir, lorsqu'il y a des cas de violation, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, ce sont ces genres de formations, des droits, que nous avons apportés à ces communautés dans toutes ces 6 provinces. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. Vous savez, dans notre pays, beaucoup d'initiatives RED sont en train de prendre place, mais piloté pas seulement par le gouvernement, mais par d'autres partis aussi. Nous voulons nous assurer que les communautés ont l'information nécessaire pour pouvoir influencer ces autres acteurs-là. Donc, nous aidons certaines communautés, là où c'est nécessaire, sur la demande des communautés, à pouvoir faire la cartographie participative, c'est-à-dire cartographier leurs terres coutumières, produire des cartes que ces communautés peuvent utiliser comme instrument de négociation avec les porteurs de projets RED dans leur zone. Mais au-delà de ça, nous avons aussi appuyé beaucoup d'initiatives de développement économique basées sur le consentement libre, préalable et informé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans notre programme, nous avons une composante qui vise à appuyer les activités de développement au niveau communautaire. Alors nous arrivons dans un village et nous discutons avec les communautés pour pouvoir faire une analyse de besoins, c'est-à-dire identifier quels sont les problèmes sociaux et économiques prioritaires de ces communautés-là, quelles sont les solutions, et nous pouvons sélectionner sur cette liste quelles sont les activités que nous pouvons appuyer par rapport aux moyens que nous avons disponibles. Comme ça, nous avons appuyé beaucoup d'activités agricoles, mais aussi d'élevage, la réparation de certains sentiers entre des villages et des ponts, même la disponibilisation à beaucoup de communautés des pirogues motorisées avec moteur pour les aider à atteindre les marchés et écouler leurs produits agricoles. Nous avons aussi disponibiliser certaines connexions internet par valise satellitaire dans certains milieux très reculés dans le pays pour permettre aux jeunes de pouvoir avoir accès à l'internet, travailler, communiquer avec l'extérieur. Donc nous avons appuyé beaucoup d'initiatives comme ça à travers toutes ces provinces avec l'objectif de réduire la pauvreté, mais aussi générer des leçons que nous pouvons partager avec le gouvernement et d'autres acteurs sur probablement comment est-ce que les bénéfices de la RED peuvent être partagés avec les communautés.
Et par rapport à l'éducation, vous avez pu construire quelques écoles?
Merci pour cette question. Nous n'avons pas construit des écoles parce que cela n'a pas été sur notre programme et oui. Nous n'avons pas les moyens de pouvoir les faire, il faut dire clairement. Oui. Mais nous avons essayé d'assister les communautés dans certaines petites activités de développement économique au niveau des villages.
Vous avez cité des projets d'élevage, de projets sur l'agriculture.
Oui.
Comment citer les communautés autochtones? Patrick Kipalou, coordonnateur national des Forest People Programme, est notre invité pour parler de ces communautés qui souvent sont marginalisées. Et l'ONG essaie d'assister à ces communautés par rapport à la défense de leurs droits. Si vous êtes intéressé par ces sujets, le numéro d'appel, c'est le 081 890 63 94.
Ils parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kéline Kouté sur Radio Okapi.
Bernard nous appelle de Manono Katanga. Bonjour Bernard.
Bonjour Marcel et bonjour à l'invité, c'est Bernard et bon appétit Manono.
On vous écoute.
Moi, avant de poser ma question, j'ai un témoignage de ce qui s'est passé ici à Manon et Marcel.
Oui.
Avec les citoyens, on a beaucoup sensibilisé avec des guerres ici qu'ils tiennent avec les Balouba, mais ça ne tient pas. Et l'ONG concerne, l'ONG Caritas, l'école a construit des écoles, mais les pygmées ne se tiennent pas. Ils veulent toujours la guerre, ils réclament les droits. Dire que non, nous voulons que nous gouvernions aussi, nous voulons que l'administrateur soit aussi un pygmée. C'est là que je vais demander à l'invité. Que pouvons-nous faire? On a beaucoup sensibilisé, on a donné des droits, mais pour eux, c'est que la guerre. Maintenant, qu'est-ce que l'invité peut nous dire sur ça? Et l'idée.
Oui, allez-y.
Oui. Et la deuxième question. Les pygmées ne veulent plus étudier. Une fois construire l'école là où ils habitent, ils vous disent que nous, si vous voulez que nous étudions, au moins nous enseigner en 20 centimes pour payer et le gouvernement vous payera sur notre place. C'est là où je demande à l'invité, est-ce que ça c'est normal? Donc si on laisse des étudiants, si c'est là donc l'erreur tombe à qui? Au gouverneur, ou bien au gouvernement, ou bien aux habitants Louba qui ne veulent plus les enseigner. C'était ça, merci et bonne continuité.
Merci Bernard d'avoir appelé de Manono Katenga. Kassamba, lui, est à Bounia, en province orientale. Kassamba, bonjour.
Bonjour, monsieur Martel. Moi, ce que je pense, il n'y a pas de marginalisation.
Oui.
Il y a seulement, actuellement, beaucoup des ONG trouvent dans le peuple autochtone un fonds de commerce. Et ils en font des affaires et les ONG nationales et internationales, tout ça. Et à l'époque de Mobutu, on avait même des agidaires pygmées. Il y en avait. le premier pygmée chez nous en Ituri, j'ai dit ça en 84, il a salué le président de la République. Il a mangé avec lui. Hein? Pour, donc, la marginalisation, ça c'est le principe de diviser pour régner. On divise les Bantous et ce peuple autochtone pour gagner quelque chose. Il ne faut pas qu'on nous trompe. Ce sont des fonds de commerce que ces gens brandissent pour aller avec son Occident chercher l'argent. Voilà, c'est ça mon point de vue.
Merci, Kassama, d'avoir appelé de Bounia en province orientale. Patrick Kipalou, qu'est-ce que vous dites à Bernard, qui a, lui, il est à Manono, au Katanga, il dit que il y a en tout cas un conflit latent pour lui, c'est pas seulement le problème d'autres peuples, mais même le peuple autochtone, et même aussi son source à problème, des fois, ils veulent pas vraiment s'intégrer. Et qu'est-ce que vous dites à Bernard?
Merci beaucoup. J'allais dire merci à Bernard pour nous avoir appelé depuis Manono. Nous savons tous qu'il y a quelques tensions dans la province du Katanga depuis un certain temps entre les communautés autochtones pygmées et les communautés bantoues. Bernard a dit que les communautés autochtones pygmées veulent seulement la guerre. Bon, ça c'est lui. Je ne sais pas vérifier ça. Je ne sais pas dire qu'il a menti ou il a dit la vérité. Mais je pense que ce qu'il y a important à faire, c'est de pouvoir discuter avec ces communautés-là pour voir ensemble quelles sont les possibilités de pouvoir développer de stratégies de cohabitation pacifique. Il faut reconnaître que ces communautés autochtones pygmées ont un style de vie particulier. Alors comment est-ce que nous pouvons faire que tout en respectant leur style de vie, qui n'est pas totalement le même avec le bantou, tout en respectant cela, que nous puissions vivre ensemble en paix. Je pense que cela passe par le respect de droits des communautés autochtones, de respect de leurs valeurs humaines. Et il a parlé aussi de problèmes d'éducation. Ça tourne autour de la même chose. Je pense que les communautés autochtones sont des communautés qui, naturellement, ne vivent pas à un seul endroit. Ils se déplacent de place en place. Par contre, nous, de communautés bantoues, nous sommes habitués à nous asseoir quelque part et puis rester là pour longtemps, faire nos activités. Donc, c'est facile pour notre, selon notre style de vie, de pouvoir construire des écoles pour nos enfants à côté et ils peuvent aller à l'école durant toute l'année. Mais les communautés autochtones, elles se déplacent beaucoup. Donc, il faut, je pense qu'il faut des études, il faut des consultations, il faut des discussions avec ces communautés-là pour pouvoir mettre en place des meilleures stratégies d'éducation qui collent, qui sont en harmonie avec leur style.
Est-ce que vous discutez deux fois avec eux par rapport pour ce genre de problème? Là, par exemple, vous avez dit c'est un corps de peuple qui sont nomades. Est-ce que deux fois vous essayez de discuter avec eux par rapport à peut-être à cette vie de nomade? Ça peut pas toujours les aider à mieux s'intégrer. Est-ce que vous en parlez, vous en discutez?
Vous savez, nous sommes une organisation non gouvernementale et nous travaillons en République démocratique du Congo à travers des ONG de droit congolais, des ONG locales congolaises, et nous avons des missions spécifiques, nous avons des objectifs, des activités qui sont limitées, nous ne pouvons pas tout faire. Donc il y a certaines tâches que nous pouvons faire lorsque ça cadre avec l'activité, avec l'objectif de notre intervention, mais nous ne pouvons pas aller au-delà, on ne peut pas toucher à tous les problèmes.
Vous savez, c'est un autre auditeur qui, pour lui, c'est devenu un fonds de commerce, hein. Et il n'y a rien. Tout se passe bien. C'est plutôt les ONG qui cherchent à tirer profit des conditions de vie de ces communautés autochtones pour chercher un peu à avoir un peu d'argent.
Bon, c'est devenu un fonds de commerce. Chacun est libre d'avoir son propre opinion. Mais la vérité, c'est qu'il y a des problèmes qui se posent sur les terrains. Moi qui vous parle ici, je voyage tout le temps à travers les pays, dans les fins fonds de la République démocratique du Congo, là où il n'y a pas de route pour même une voiture ou quoi, où il faut faire des heures et des heures sur une pirogue pour aller voir des communautés autochtones au fin de la forêt. Moi, j'arrive, donc je sais de quoi je parle. Et les communautés autochtones ont été de toutes les provinces de la RDC, ici à Kinshasa, au mois de mars, c'était ça leur discours. Discrimination, marginalisation, je ne sais pas pourquoi lui dit le contraire, peut-être qu'il a des raisons aussi. Mais le problème, c'est que sur le terrain, le problème se pose, il faut faire quelque chose.
Voilà, on va poursuivre avec Jean de Dieu qui nous appelle de Kikwit au Bandundu. Jean de Dieu, bonjour.
Bonjour Monsieur Marcel, bonjour aussi à notre invité. J'ai des questions que je vais poser à notre invité. Ma première question, je voulais juste savoir, du fait que le peuple autochtone n'est pas inséré dans le programme scolaire, parce qu'elle, c'est vraiment, ils n'ont pas l'habitude, ils ne sont pas habitués avec le peuple bantou et dans le milieu scolaire. Du fait qu'elles ne sont pas insérées ou ils n'étudient pas ensemble avec le peuple bantou, est-ce que cela n'est pas l'une des moyens où elles ne sont pas vraiment en bonne relation avec les bantous, parce qu'elles sont à part? Parce qu'on voit dans notre province, c'est un exemple que je donne, où il y avait des peuples autochtones sikimais ici. Et il y avait deux, trois, quatre comme ça qui étudient dans une école, l'école de la place. Mais elles étaient discriminées, vraiment ils n'ont pas fini à terminer même l'année. Dans ce sens-là, comme elles n'étudient même pas ensemble avec les bantous, leur vie, ils restent ensemble. Et est-ce que ce n'est pas un moyen ou ce n'est pas la cause où on n'est pas en bon terme avec elle? Ma deuxième préoccupation, je voulais juste savoir, nous qui sommes dans une province forestière, et où il y a vraiment, où nous sommes à tout moment avec le Pikimin, du fait que quand ils ont des conflits avec des braconniers à tout moment, des braconniers bantous, quand ils vont là, et que les bantous entrent là, dans les forêts là où ils sont, et en train de chercheurs.
Oui. Oh. Jean de Dieu n'est plus en ligne, mais on a compris un peu l'essentiel, en tout cas, de sa première question. Merci Jean de Dieu d'avoir appelé l'équipe depuis la province du Bandundu. Guy Bendelo, vous êtes à Chikapa, au Kassa Occidental. Bonjour Guy.
Bonjour Marcel Mombala, je salue aussi les auditeurs qui nous écoutent en ce moment.
On vous écoute?
Oui Marcel, j'ai une... quelle question à poser auprès de notre...
Décidément, il y a des petits problèmes de liaison téléphonique. On espère que ça va marcher. On poursuit avec notre invité, Patrick Kipalou, coordonnateur national de Forest Peuple Programme, une ONG qui assiste les communautés autochtones. On a justement entendu parler comment assister ces communautés autochtones. Nous avons suivi Jean de Dieu qui nous a appelé de Kikuit Bandundu. Vous avez également suivi Patrick Kipalou. Alors lui, il parle du problème de l'intégration scolaire. Et pour lui, il estime qu'il y a également un problème de la part de ces communautés autochtones. Et surtout sur le plan de l'éducation, ils ont du mal à s'intégrer. Peut-être que parce que les autres peuples les acceptent difficilement, ou bien peut-être parce qu'eux-mêmes, peut-être, ils n'arrivent pas à s'adapter. Et comment expliquer cela?
Merci beaucoup. Je remercie beaucoup Jean des Dieux depuis qu'il quitte pour sa question intéressante. Je crois qu'il y a des efforts à faire de deux côtés.
Oui.
Je commencerai par dire d'abord, vous savez, dans notre pays ici, vous trouverez rarement des communautés autochtones pygmées, des hommes pygmées qui ont du travail et qui vont au travail tous les matins et qui ont installé à la fin du mois, qui leur donne la possibilité de scolariser leurs enfants. Il est difficile pour les parents pygmées de payer la scolarité de leurs enfants dans les écoles comme tous les autres parents bantous les font, parce qu'eux n'ont presque pas de revenus. Donc, ils ont difficile d'abord d'avoir accès à l'argent. C'est très très rare. Ça, c'est un des problèmes qu'il faut d'abord considérer au départ. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que la discrimination dont les peuples autochtones en pygmées sont victimes dans notre pays, dans leur milieu de vie, est un facteur grave, important dans le découragement de leurs enfants de pouvoir aller à l'école. Ils sont victimes de beaucoup de violences parfois, ou bien des actes de haine, de découragement qui, lorsque les enfants pygmées sont à l'école, tu vas aller dans un village, on te dit notre enfant est parti à l'école, mais les enfants des bantous ont refusé de s'asseoir sous les mêmes bancs avec l'enfant d'un pygmée. Tu penses qu'un tel enfant va revenir encore à l'école demain? C'est toute une difficulté. Il entre, les femmes pygmées vont à l'hôpital et les infirmiers bantous ont difficile à les toucher ou les soigner ou leur faire accoucher. Une femme pygmée qui vient à l'hôpital pour accoucher et qui n'a personne qui veut la toucher. Vous pensez qu'elle reviendra encore demain? Je pense qu'il y a un effort à faire dans la considération de ces communautés autochtones pygmées, dans le respect de leurs valeurs humaines, et cela va encourager, va motiver et va faciliter un peu leur intégration dans la société et puis leur émergence pour leur contribution. Nous avons besoin de ces communautés-là parce qu'elles n'ont pas que de faiblesses, elles ont aussi beaucoup de des connaissances, beaucoup des capacités qu'elles peuvent mettre à profit pour le développement de notre pays. Et cela est déjà prouvé dans les domaines forestiers.
Alors, vous êtes une ONG, vous assistez ces communautés autochtones, et vous avez même dit, vous avez pu assister à 35 communautés dans 305 communautés dans 6 provinces du pays. Est-ce que vous avez l'impression que ces communautés désirent en tout cas ne pas vivre en vase clos, mais également, vous avez cette impression, mais également vivre en symbiose avec les autres peuples. Vous avez cette impression-là.
Il y a beaucoup, beaucoup de villages dans notre pays, à travers le pays, où les communautés autochtones pygmées vivent en symbiose avec les Bantous. Ok, malgré qu'il y a toujours un certain degré de séparatisme ou de différences, mais vous partirez en province orientale, vous partirez au nord Kivu, en Équateur, où vous trouverez des villages où les autochtones vivent à côté des Bantous. Je vais vous donner l'exemple d'un village. En Tondo, dans les territoires de Bikoro, en Équateur, nous avons aidé à construire dans ces villages-là 4 sources. Nous avons aménagé 4 sources d'eau pour que les communautés puissent avoir accès à l'eau potable. Dans ces villages-là, il y a 3 sources qui sont utilisées uniquement pour les Bantous. Et les autochtones pygmées ont du mal, ont des difficultés pour aller puiser de l'eau dans ces sources-là. Nous avons été obligés de construire d'aménager une autre source dans un autre coin qui est utilisé uniquement pour les autochtones
pygmées. Ça, c'est un exemple intéressant. Par rapport à ces sources, est-ce que vous avez cherché à demander à ces Bantous pourquoi vous refusez et que le pygmée vienne puiser de l'eau à ces sources?
Vous savez, ces communautés bantoues vont vous dire, nous n'avons pas refusé. Et parfois, c'est vrai, elles n'ont pas refusé. Ah, mais bon, ça, c'est quelque chose qui est dans la culture. Vous allez aller dans certains villages où vous allez voir que lorsque un bantou arrive sur les sentiers du village et qu'il y avait un autochtone pygmée de l'autre côté, il doit entrer dans la forêt, les bantous passent et puis lui, il ressort pour continuer sa route. Ce sont des choses qui ont existé dans notre culture et il faut beaucoup de sensibilisation, beaucoup de partage d'informations, d'éducation de toutes les communautés, et les communautés bantoues et les communautés autochtones, pour que nous puissions nous tous changer notre perception de nos frères, de changer nos habitudes, nos façons de nous considérer entre nous, afin que nous puissions évoluer ensemble. Je ne suis pas en train ici d'essayer d'accuser ou d'incriminer les Bantous. Je suis en train de très bien dire que les efforts doivent être faits par les deux communautés. Chacun, là où il y a des barrières dans sa façon de vivre ou dans sa façon de se comporter, nous devons changer, nous devons émerger pour comprendre que nous avons tous les mêmes droits. Notre constitution de la République démocratique du Congo garantit les mêmes droits pour tous les citoyens congolais. Et les communautés autochtones bantoues du pays sont des citoyens congolais comme tout le monde.
Comment assister les communautés autochtones? Patrick Kupa, le coordonnateur national de Forêts et Peuples Programme, nous en parle. Nous avons direction sur notre page Facebook, j'imagine, parce que Tati vient de faire son entrée dans ce studio.
Oui, Marcel, une réaction que j'ai estimée pertinente. Il y a Ernest Lukumwena Kalala qui nous écrit de Kalemi, dans la province du Katanga. Il dit ceci: nous connaissons bien tous que les Pygmées sont les premiers habitants de la République démocratique du Congo. Cependant, les Bantous semblent être plus civilisés que les Pygmées. De nos jours, vous constaterez que dans les villages où ils habitent, ils ne construisent que des cases ou des huttes, soit au début du village, soit à la fin, ou encore loin des Bantous. Qu'est-ce qui est à la base de ces phénomènes? Et pourquoi les Pygmées deviennent plus agressifs de nos jours qu'auparavant, surtout au nord Katanga? Vont-ils se développer dans cette démarche?
Voilà, merci Tati pour cette réaction qui nous est parvenue sur notre page Facebook. Avant d'accueillir Aimé Minako qui est en ligne depuis Siro, vous voulez bien réagir par rapport à cela?
Très bonne réaction de notre ami depuis la province du Katanga sur Facebook. Nous devons dire, je vais rappeler que Forest People's Program est une ONG qui y a pour sa mission basée, nous sommes basés sur, notre mission est fondée sur le fait que nous croyons à l'autodétermination des peuples, des communautés. Chaque communauté doit choisir, doit être libre de choisir sa propre approche de développement, son propre style de vie. Et nous devons, dans notre façon de vivre aussi, accepter les styles de vie des communautés autochtones. Nous ne pouvons pas les imposer une certaine façon de vivre. Nous ne pouvons pas dire que notre façon de vivre est la meilleure et nous devons faire en sorte que les communautés autochtones vivent comme nous. Si nous voulons comme ça, alors ouvrons toutes les portes et voyons voir si ces communautés-là vont accepter cela ou pas. Respectons-le, considérons leurs droits, respectons leurs valeurs humaines. Arrêtons toute forme de discrimination qui conduit à leur marginalisation dans tous les domaines de leur vie et voyons voir ce que cela va donner. Je crois que depuis notre culture, et j'ai apprécié une chose, le fait que notre auditeur a reconnu que les communautés autochtones pygmées sont les premiers habitants de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est vrai. Et s'ils sont les premiers habitants de la RDC, ça veut dire qu'ils ont des droits coutumiers sur les terres traditionnelles où ces communautés-là sont établies. Et tout ce qui vient de l'extérieur sur leurs terres est considéré comme une pression sur leurs ressources, une pression sur leurs terres, et ils doivent réagir à cette pression-là. Ils doivent se rassurer que leurs droits sont préservés, que leur style de vie n'est pas perturbé, que leurs conditions de vie sont améliorées, mais pas détruit par la pression qui vient de l'extérieur. Je pense que c'est là-bas qu'il y a les problèmes et c'est là qu'il faut faire un travail.
C'est là qu'il faut faire un travail. Nous allons accueillir Aimé Minako qui nous appelle d'ici au Province orientale. Bonjour Aimé.
Allô, bonjour, bonjour à l'invité.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, ma seule question de savoir est celle-ci. Ces pygmées là sont vraiment brutales. C'est difficile donc de les adapter au mode de vie de la vie. Parce qu'ici, ici où nous parlons, même à l'hôpital, s'ils arrivent à l'hôpital, bon, ils ont même du mal à s'exprimer devant les gens. Donc à dire ce qu'ils ressentent. Même à l'école, ils ont du mal à étudier. Même à question de savoir comment peut-on facilement les apprivoiser. Faut-il leur créer des écoles appropriées pour eux ou des hôpitaux appropriés pour eux, comment vraiment facilement les apprivoiser?
Merci Aimé d'avoir appelé d'ici au Province orientale. On retourne ici à Kinshasa pour retrouver l'ingénieur Mangoyo qui est en ligne. Ingénieur Mangoyo, bonjour. Bonjour ingénieur Mangoyo.
Bonjour.
On vous écoute?
Oui, bon, moi j'ai quelques préoccupations et puis je vais poser la question à notre invité.
Oui.
Bon, je ne sais pas. Quel est le but poursuivi par cette démarche qui consiste à intégrer la communauté des pygmées? Parce que moi, je me pose une question. Est-ce que ces gens-là, à ce 21e siècle, est-ce qu'on peut continuer à accepter qu'ils vivent dans la forêt? Comme c'est le cas maintenant, parce que je viens de suivre notre invité qui a dit il ne faut pas les forcer, il faut tout ça. Mais est-ce qu'il est normal, les personnes, même s'ils ne sont pas des Bantous, mais nous les avons ici à Kinshasa, ils sont à Kinshasa ici, nous voyons, je ne sais pas si ce sont ces gens-là qu'on appelle les Bachois, je crois que c'est ça. Alors, c'est ça. On les voit ici à Kinshasa, ils vivent, il n'y a pas trop de problèmes. Mais pourquoi à l'intérieur là-bas, ils se posent toujours des problèmes? Il faut que notre invité nous dise pourquoi là-bas, il se pose toujours un problème. Et si ces gens-là ne veulent pas s'intégrer parce qu'ils préfèrent leur vie de la forêt et de suite, qu'est-ce que nous devons faire? Parce qu'après tout, on ne peut pas les laisser comme ça, ce sont des êtres humains.
Voilà, merci ingénieur Mangoyo d'avoir appelé de Kinshasa. Patrick Kipalou, c'est presque la même question par rapport à Aimé sur l'aspect intégration. Et pour l'ingénieur Mangoyo, on est déjà au 21e siècle, il dit bon, c'est bon que ces gens puissent encore chercher à vivre dans des forêts, mais peut-être faut les aider à voir comment à mieux s'intégrer, surtout éviter peut-être ces sentiments de fériorité qui les animent, alors que ce sont des citoyens congolais comme tous les autres.
Merci beaucoup pour nos auditeurs. J'ai dit merci à Aimé depuis Isiro pour sa question. Aimé disait tout à l'heure que nous avons remarqué que les peuples autochtones pygmées sont brutaux et parfois ils viennent à l'hôpital et ils restent dans leur coin. Je pense qu'il faut aller chercher pourquoi, qu'est-ce qui est à la source de ces comportements. Pourquoi ces communautés ont, je peux dire, peur de parfois à se mettre ensemble avec les autres. Quelles sont les barrières qui créent? Quels sont les problèmes, les causes de ces façons de vivre? Si nous pouvons réfléchir ensemble, nous savons que le gouvernement est en train de faire des efforts. Il existe d'ailleurs un document des stratégies pour le développement des communautés autochtones à RDC qui a été fait avec l'aide de la Banque mondiale. Nous savons que le gouvernement est préoccupé aussi par cette question. si nous pouvons tous réfléchir et essayer de voir depuis le niveau local qu'est-ce qu'il faut commencer à faire partant de nos traditions afin de pouvoir briser les barrières et de pouvoir donner beaucoup plus de chances à l'harmonisation, à la cohésion, à la paix entre toutes les communautés sur les terrains. Et aussi, je pense que la même réponse est valable pour l'intervention de l'ingénieur Mangoyo à partir de Kinshasa ici. Je crois qu'il est important de savoir que on ne peut pas dicter aux communautés la meilleure approche de développement. Est-ce que développement veut dire habiter dans une grande maison et conduire un gros véhicule? Est-ce que c'est ça le développement? Ça aussi c'est une question. Et est-ce que développement veut dire que toutes les communautés qui sont dans nos provinces doivent quitter les zones forestières où elles sont et venir vivre à Kinshasa? Non, je pense que il y a moyen de faire en sorte que ces communautés-là puissent vivre en paix avec leurs conditions de vie améliorées à partir des milieux de vie où ils sont. À partir de là-bas, ils peuvent avoir accès aux soins médicaux, à l'éducation, à la justice, au travail, à toutes ces questions-là, au respect de leurs droits, au respect de leurs valeurs humaines, à partir de là où ils sont. Et puis, bien entendu, ils sont libres de venir à Kinshasa quand ils veulent, de venir travailler ici, si ils ont étudié, ils se sont formés, ils ont des capacités. Je peux vous garantir que dans cette ville, il y a beaucoup de communautés autochtones qui vivent à Kinshasa et qui essayent de se débrouiller ici. Donc, il y a question de pouvoir briser les barrières, ouvrir les portes et leur donner la chance, selon leur consentement, selon leurs besoins, de pouvoir émerger et contribuer au développement de ces pays.
Alors, avant de nous quitter, Patrick, vous avez organisé dernièrement ce festival de peuples autochtones. Est-ce qu'on peut retenir qu'il y a des avancées après ces festivals où ces peuples autochtones étaient là, sur place? Est-ce qu'il y a eu peut-être des rencontres avec certaines autorités compétentes par rapport à leurs problèmes?
Merci beaucoup pour cette question. En fait, je voulais qu'on en arrive là parce que depuis plus de 2 ans maintenant, beaucoup d'organisations, des communautés qui travaillent avec les communautés autochtones ont travaillé avec les communautés autochtones pour pouvoir développer une proposition de loi, organique portant principes fondamentaux relatifs à la promotion et la protection des droits des peuples autochtones. Cette proposition de loi a été déposée sur la table de l'Assemblée nationale. Et nous remercions le bureau de l'Assemblée nationale parce qu'ils ont inscrit cette proposition de loi pour être examinée durant la session du mois de mars. Donc nous avons organisé ces festivals-là comme un instrument de plaidoyer vis-à-vis des autorités du pays afin que cette loi puisse être adoptée au Parlement et promulguée en tant que loi par les chefs de l'État pour promouvoir la protection des droits des communautés autochtones en République démocratique du Congo.
Voilà, merci beaucoup Patrick Kipalou. On va s'arrêter par là. Nous disons merci à tous les auditeurs qui ont réagi par rapport à cette émission. Partout, vous nous avez suivi, même sur le site internet de Radio Capi, vous dédiez même cette émission à votre épouse qui est en train de vous suivre depuis les États-Unis. C'est ce que vous m'avez laissé entendre, qui est vraiment passionné par ce que vous faites sur l'assistance des personnes autochtones.
Oui, merci beaucoup. Oui, je dis bonjour à ma femme, à Christine Mambote Kipalou, qui me suit depuis la ville de Rockville dans la zone métropolitaine de Washington DC aux États-Unis. Elle est tellement passionnée par le travail que nous faisons. Merci beaucoup.
Allez, continuez. Bon courage.
Merci à vous pour m'avoir sur votre plateau.